Voilà, nous sommes sous le regard du Seigneur. Vous en êtes conscient? Que Dieu y voit, il voit vos cœurs. Vous, parfois, vous devez vous dire, Dieu regarde le pasteur qui prêche. Moi, je crois que Dieu regarde vos cœurs. Bien sûr qu'il regarde la prédication, mais je crois que Dieu regarde chacun d'entre nous. Alors, on va lire un texte dans la Genèse au chapitre 19. Je salue également les visiteurs de passage qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. On va lire presque en entier le chapitre 19 de la Genèse jusqu'au verset 29. C'est un drôle de chapitre, vous l'avez lu, vous avez certainement été étonné par ce chapitre. J'aimerais qu'on le lise, s'il vous plaît. N'oubliez pas que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Genèse, chapitre 19. Les chewing-gums sont dans les Kleenex et Dieu voit le respect qu'on a de sa parole. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est de quoi il se mêle. Mais moi, le pasteur, il a vraiment à cœur qu'on honore Jésus-Christ. Il y a une dame qui va témoigner dimanche qu'elle a été guérie. Et je crois, vous savez, mes frères et sœurs, que plus on honore Dieu, plus il agit. Je crois qu'il, je ne sais pas où, j'ai lu quelque part, j'honorerai celui qui m'honore. Et c'est ce que nous voulons. Genèse, chapitre 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais vous remarquez que les anges hésitent à rentrer dans la maison de Lot. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pisque à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur !» Être capable dans ce cas-là de dire non à Dieu, il faut le faire vraiment. Bon. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. »
Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui ça veut dire petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, si vous avez lu ce texte pour la énième fois, pour la première fois. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais vous savez, c'est un chapitre qui nous fait penser à l'Apocalypse. Je ne sais pas vous, de type apocalyptique. C'est un chapitre qui nous parle du soudain jugement de Dieu. Je l'ai dit, ça a été écrit pour notre instruction. Et je crois, en toute humilité, que c'est un petit échantillon de ce qui va se dérouler et se dérouler de plus en plus sur la surface de la terre. Dans ce texte, il nous est parlé d'Abraham, le regard d'Abraham sur la ville, sur Dieu. Le regard de Lot sur les choses. Le regard de la femme de Lot, on ne connaît pas son prénom, dont on dira Madame Lot. Ces regards qui doivent nous amener à nous poser la question, car on n'est pas là pour juger ces personnes. Mais nous devons nous poser la question, comment nous regardons les choses ? Les choses qui arrivent, les choses qui vont arriver de plus en plus. Dieu a dit à une femme, à cette femme, ne regarde pas derrière toi. Et vous avez vu avec moi ce qui est arrivé. Ce texte, ce n'est pas une légende, parce que Jésus a utilisé ce texte. Vous connaissez dans l'évangile de Luc, le Seigneur a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Si le Seigneur nous demande de nous en souvenir, c'est parce qu'il veut qu'on y réfléchisse. Peut-être que vous n'y réfléchissez pas, mais c'est quand même quelque chose que Dieu nous demande. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ce n'est pas une légende. Vous savez, on entend de plus en plus, faites-y attention, dans nos églises, que la Bible, ou plutôt le nom, la parole de Dieu, elle est dans la Bible. Mais que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors écoutez-moi bien. Moi, je vous dis que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Et qu'il ne faut rien retrancher, et qu'il ne faut rien ajouter. Et que je plains ceux qui ajouteront ou ceux qui retrancheront quelque chose. Le Seigneur a dit, ceux qui feront cela, il leur sera aussi retranché. Alors il vaut mieux comprendre que ces choses-là ne sont pas des légendes. Il y a des gens qui disent, oui, tout ça, l'histoire de Lot, la femme de Lot se transformait en statue de sel, mais non, mais n'importe quoi, c'est des légendes. Ce n'est pas une légende. En plus, si Jésus l'utilise, c'est bien que c'est quelque chose qui a eu lieu. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Le problème de cette femme, son regard sur sa ville. Je ne pense pas, après avoir étudié ce texte, je ne pense pas qu'elle a été pétrifiée à cause de sa curiosité. Je ne pense pas que le problème il était dans la curiosité de voir ce qui se passait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le problème est beaucoup plus grave que ça. Elle est attachée à bon, c'est vrai qu'il y a ces gens qui sont restés. Deux de ses filles. Puisque les deux autres étaient vierges. Donc, les autres étaient mariés, donc c'est bien la preuve que deux de ses filles sont restées. Il y avait de l'attachement. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui font qu'on a un regard différent. Mais cette affaire, même si on ne comprend pas bien, elle nous montre qu'il y a des choses auxquelles on peut être attaché et que Dieu désapprouve. Je reviens, c'est pas la curiosité. Tiens, elle se retrouve, comment ça va se passer? Non. Mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des choses que Dieu désapprouve. Il y a des valeurs, des choses qui sont considérées comme des valeurs que Dieu n'accepte pas. Des choses du monde. Et c'est important de comprendre un peu la mentalité de Sodome. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 16. C'est un texte sérieux. Il a été laissé, je vous dis, c'est une espèce d'échantillon du jugement qui vient. Dans Ézéchiel au chapitre 16, il nous est parlé justement de Sodome. Qu'est-ce que Dieu reproche, entre autres, de cette perversité sexuelle? Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, lisons-le. Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sont là. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Vous voyez combien Dieu aime. Le social, moi, vous savez, c'est vraiment la conséquence. Mais quand même, Dieu aime quand on prend soin des autres. C'est important. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Parce qu'il y a aussi le regard de Dieu. Quand Dieu a vu cette misère, cet orgueil, cette désillusion, Dieu a décidé de les condamner. Mais il faut bien comprendre que c'est ce qui va arriver. Il y a des gens qui ne croient pas au jugement. Dans le peuple de Dieu, je ne parle pas dans le monde. Dans le peuple de Dieu, des gens qui disent « Mais non, Dieu est amour, c'est pas vrai, tu rêves, Dieu est trop bon, Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de tendresse, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas possible cette affaire du jugement. » Écoutez-moi, le jugement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si Dieu dit qu'il viendra, il viendra. Vous le comprenez, mes frères et sœurs? Il faut en parler. La pensée de Dieu par rapport à Sodome, la pensée de Dieu par rapport à ce que l'on regarde. Je ne sais pas comment vous regardez les choses. Vous savez, on va lire encore un texte dans Jude, juste avant l'Apocalypse. Il est parlé de Sodome, du jugement qui va venir. Là, on est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est l'Ancien. Justement. Jude, chapitre 1er, si vous voulez. Verset 5. Jude, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, vous les savez ces choses ? Ouais. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez, même les anges, certains ont chuté. C'est de la folie. Hein. Même certains, vous voyez, Dieu a respecté tout le temps le libre arbitre de chacun. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Voilà ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Que c'est un exemple. C'est pour ça que je vous disais que c'est un échantillon du jugement. C'est ce qui est arrivé. Et Dieu dit que ça va se reproduire. Mais si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, vous comprenez ces choses. Et cette femme, elle était attachée à des choses du monde. La Bible est catégorique. N'aimez pas le monde. Bien sûr, il faut aimer les gens. Vous avez vu à la fin comment même Abraham regarde Sodome, mais lui, c'est par rapport aux pécheurs. Il avait le fardeau. La preuve, on le voit comment il prie avant dans le chapitre 18. Mais le regard, comment regardez-vous les choses de la terre ? Est-ce que vous êtes attaché aux choses de la terre? On pourrait lire un texte juste un peu avant, dans 1 Jean. C'est important. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont dans le même état que la femme de Lot. Ils sont attachés aux choses de la terre. Ils sont attachés à la mondanité. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est claire. Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ce sont des choses, c'est à cause de ça que la femme de Lot s'est fait avoir. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde. Ça ne veut pas dire n'aimez pas les pécheurs. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, alors il y a trois choses, regardez. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Vous voyez, il y a des choses auxquelles il faut absolument faire attention. Sodome, c'est le monde, c'est l'esprit du monde, un monde qui ne veut plus de Dieu. Ils ont décidé, ils ne veulent pas de Dieu. Mais c'est ce qui est en train de décider notre monde. Le monde ne veut pas de Dieu, tout est en train de se mettre en place pour créer une religion mondiale, mais je peux vous dire qu'on ne veut pas de Dieu. Sodome, c'est un monde qui aime le monde, il aime le péché, il est dans l'orgueil, il est dans l'illusion, il est rebelle à Dieu. Et Dieu nous dit qu'il ne faut pas aimer ce système. Est-ce que vous êtes dans le monde, dans l'esprit de ce monde? La convoitise de la chair, l'homme qui est livré à lui-même, les œuvres de la chair, dit Paul, elles sont évidentes. Vous connaissez, c'est écrit, les œuvres de la chair. Peut-être, mais c'est quoi les œuvres de la chair? Eh bien, quand il est dit la débauche, l'impureté, le dérèglement, tout ça, c'est des œuvres de la chair. C'est la perversité. Je parle régulièrement, j'en parle de la perversité sexuelle. Mais il y a la perversité sexuelle, mais il y a la perversité religieuse. Parce que quand il ajoute mais l'idolâtrie et la magie, c'est dans le domaine religieux, cette perversité religieuse. Tout est fait au niveau religieux, tout est fait pour qu'on se détourne de Dieu. Est-ce que vous me croyez? Vous avez vu ce qui est fait au niveau religieux? Tout est fait de sorte que les gens, à la place d'être attirés vers Dieu, ils sont écœurés des choses de Dieu. Et c'est de l'idolâtrie, c'est de la magie, ce sont des perversions religieuses. La convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la séduction par le regard. Vous avez vu, tout ce que l'on voit ne te retourne pas en arrière. J'entendais l'autre jour, je crois sur une radio d'info, j'écoutais qu'il y avait des hommes, des femmes, qui, avec Facebook, avaient cherché à retrouver leur petit premier amour. Et ils tapaient, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue, Ernestine? Et on tape, ah, et on chatte, enfin, vous savez comment ça se passe, c'est pas mon truc. Et ils ont retrouvé leur petit copain d'enfance, leur premier flirt. On pourrait se rencontrer. Oui, je suis marié, mais bon. Et combien de foyers sont détruits? Vous le savez? Est-ce que j'invente quelque chose? Vous savez que c'est vrai. Et quand Dieu, dans sa sagesse, dit « Ne te retourne pas en arrière, parce qu'en arrière, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui t'attacheront au monde, il y a des choses qui sont perverses. Si le Seigneur nous dit ce matin, il ne le dit pas qu'aux femmes, il le dit aux hommes et aux femmes, ne vous retournez pas. Le jugement va venir. Écoutez, si vous ne croyez pas au jugement, il n'y a qu'une alternative, c'est que vous n'êtes pas converti. Je ne vais pas mettre 2 heures à vous l'expliquer. Si vous ne croyez pas au jugement, c'est que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. C'est donc que vous n'êtes pas né de nouveau. Le jugement, il va venir. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, le jugement, il va venir sur la terre. Ce n'est pas le meilleur sujet à développer. Mais je pense quand même que s'il y a cet échantillon du jugement dans la Genèse 19, c'est parce qu'il faut que nous en parlions. Ce sont des choses sérieuses. La convoitise. Et on en arrive à cette illusion qu'avait Sodome. Je n'ai besoin de rien. Vous connaissez, il n'y a pas qu'à Sodome où on a dit ça. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien. Et on a vite fait d'en arriver à « je n'ai plus besoin de Dieu ». Vous savez, c'est vite fait. Moi, j'ai vu des chrétiens, « oh, vous savez, je n'ai pas besoin de lire la Bible ». Quand on commence à dire « j'ai plus besoin de lire la Bible », je peux vous dire qu'il ne va pas se passer beaucoup de temps pour qu'on dise « je n'ai pas besoin de Dieu ». Et le résultat, il est là, on va être pétrifié, on ne verra pas la bénédiction du Seigneur parce qu'on n'aura pas pris au sérieux ces choses. Ne te retourne pas. Il y a des choses, ne vous retournez pas. Ce n'est pas physique. C'est clair que ça n'a rien à voir avec le physique. Ne marchez plus, regardez rien. Non, non, Monsieur Gou, il a dit qu'il ne faut pas se retourner. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il faut que vous soyez soucieux de dire ces choses-là. Je ne veux pas y toucher. Elles sont mondaines, elles sont perverses. Et nous sommes dans un monde de perversion. Et nous ne devons pas nous retourner et nous attacher à ces choses. Regardez avec moi dans Luc 17. Il est parlé, Jésus dénonce le danger du matérialisme, justement, avec cette affaire. Luc chapitre 17. C'est par rapport à la fin des temps, justement, verset 26. Luc 17, verset 26. Vous savez, les prophéties, c'est sérieux. Les prophéties bibliques, elles sont sérieuses. Luc 17, verset 26. On va lire jusqu'au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous le croyez, ça? Les hommes mangeaient. Regardez tous les verbes qu'il y a. Regardez tous les verbes. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voyez ? Et alors c'est une bénédiction de manger, de boire. Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction de pouvoir acheter des vêtements, de pouvoir se coordonner avec son épouse? Est-ce que c'est une bénédiction? Ben oui. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. C'est une grâce. Je ne sais pas, peut-être vous avez mis un beau costume ce matin, non? Vous êtes bien habillé ce matin pour venir dans la maison du Seigneur? Oui? Vous n'êtes pas venu en jean? Non, je blague. Mais est-ce que c'est une grâce de pouvoir s'acheter des habits? Est-ce que c'est une grâce de s'acheter des habits? Eh oui. Alors, ne confondez pas la bénédiction des grâces que Dieu nous accorde et l'esprit matérialiste qui nous éloigne de Dieu. Même là encore du temps de Noé, du temps de Lot, puisque c'est écrit, le mariage était accepté. Mais nous sommes venus dans un moment où le mariage ne va plus être accepté, ou complètement détourné. Donc ce que l'on est en train de vivre est pire que ce que l'on vivait du temps de Sodome. Certains me disent, non, on n'en est pas, c'est pas pire. Moi, je pense qu'au niveau de la perversion, on a dépassé Sodome et Gomorre. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas grave. En tous les cas, ça n'empêchera pas que le jugement viendra quand même. Le mariage, aujourd'hui, on n'en veut plus de mariage. Ou alors, vous avez vu comment on le tourne. Ce texte, il est là. Il est là pour qu'on réfléchisse. Vous voyez, quand Jésus dit, mais souvenez-vous de la femme de Lot. Donc, souvenez-vous du chapitre 19 de la Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement tombera un jour. Et Dieu veut nous en épargner. Les chrétiens sont sauvés de la colère. Alléluia. Les véritables chrétiens sont sauvés de la colère. Ils ne connaîtront pas la colère de Dieu. Mais il y a un jugement qui vient, surtout ceux qui vivent dans cette sécurité illusoire, comme on a lu dans Ézéchiel. Les gens, ils ne s'y attendaient pas, personne ne s'y attendait. Même l'autre n'était pas conscient. Il a fallu qu'on l'arrache de Sodome. Qui c'est qui était au courant? Qui c'est qui était au courant du jugement? Abraham. Pourquoi? Eh bien parce qu'il représente les croyants qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui lisent la Bible et qui savent, comme nous ce matin, que le jugement va venir. Mais il y a plein de chrétiens, je suis sûr qu'il y a plein de chrétiens qui ne réfléchissent pas. Ça vient peut-être du fait des pasteurs ne l'enseignent pas. Mais je crois qu'il faut que nous comprenions tous bien que le jugement y vient. Personne ne s'attend au jugement. Est-ce que vous croyez que le monde s'attend au jugement? On s'attend au réchauffement de la planète, on s'attend à des petits trucs comme ça. On sait très bien qu'il y a des plus ou moins par-ci, mais c'est normal, ça s'est toujours passé. Vous savez, Madame Lot, elle représente les gens qui sont attachés aux choses de la terre, aux choses du monde qui sont mauvaises. Et il faut s'en détourner. Parce qu'un jugement vient et ce n'est pas le moment que les chrétiens soient affectés par ça. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. Sommes-nous dans le système de ce monde? Non, il ne faut pas que nous soyons dans le système de ce monde. Nous devons aimer le monde, nous devons aimer les gens, nous devons aimer les pécheurs, nous devons avoir de la compassion pour le monde perdu, mais nous ne devons pas aimer l'esprit du monde, parce que voilà comment ça se terminera pour les chrétiens qui sont légers avec le passé. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est un homme qui, vous avez vu ses réactions, vous avez vu comment, par exemple, il a le souci là, de la tradition, de la culture, la façon dont on doit accueillir les gens. Ça vaut la peine de comparer. Au niveau spirituel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un regard trouble, un regard perdu, un regard, lui aussi, peut-être sur la notoriété plus que sur autre chose. Et pourtant, moi, c'est une chose qui m'a le plus époustouflé dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est que Dieu l'appelle le juste. Alors, il faut lire un texte, parce que quand même, je pense que c'est important. Alors, je crois avoir compris certaines choses. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, il nous est parlé justement du jugement. Il y en a des textes sur le jugement dans la Bible, croyez-moi. Il nous est parlé de Noé, qui était un prédicateur. Chaque fois qu'il tapait dans une poutre, eh bien, c'était un rappel que le jugement, là aussi, allait venir. Un autre jugement. Alors, on va lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. Regardez bien, mes frères, c'est sérieux, ces choses, vous savez. C'est pour qu'on ait, nous, un regard intelligent sur les choses de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. « Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Oui, c'est sérieux, ça. « S'il a délivré Lot, le juste. » Alors, regardez bien. Profondément attristé. De quoi? De la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Ça l'attristait profondément. Ben, il y a de quoi. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors ce texte, moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis assis et j'ai dit, l'apôtre Pierre, il s'est trompé. Et je vous assure, j'ai pensé. J'ai dit, il y a un problème de traduction, il y a quelque chose. J'ai pensé, alors que je vous dis que tout ce qui est dans la vie est inspiré, et je le crois bien sûr, j'ai pensé qu'il y avait un problème. Lot appelé le juste. Alors il ne faut pas oublier que Lot a quand même pris un bon départ. Il était avec qui? Il était avec son oncle. Et il a vraiment pris un bon départ. Il marchait, enfin avec Dieu, il marchait avec quelqu'un qui marchait avec Dieu en vérité. On le voit ça plusieurs fois dans la Bible. Des hommes qui sont fidèles, tant qu'il y a un roi, tant qu'il y a un prophète, par exemple, qui est spirituel. On le voit, il y a plusieurs rois dans la Bible. Voilà, tant que Ézéchias était là, le roi, je ne sais plus comment il s'appelle, eh bien il a été fidèle. Le jour où Ézéchias est mort, etc. On le voit plusieurs fois. Tant que le petit neveu Lot marchait avec tonton Abraham, ça marchait. Ça allait. Mais quand ils se sont séparés, parce que c'est une chose de suivre Dieu, et c'est une chose de marcher avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est important. Il y a eu une crise. Il y a eu une crise dans la vie de ces deux hommes parce que Dieu les avait profondément bénis. Et c'est vrai que Dieu peut bénir. Et je crois que Dieu, il peut nous étonner. Est-ce que vous croyez que dans ce temps de crise, Dieu peut vous bénir? Mais bien sûr. Ne soyez pas déprimés parce qu'on parle du jugement. Au contraire. Et je ne suis pas déprimé parce que je parle du jugement. Je crois que le jugement vient et que nous en serons épargnés. Mais dans la vie, il y a des moments où les choses se révèlent. Il y a des crises. Il y a une crise, si vous regardez les chapitres avant, il y a les bergers de Lot qui ont commencé à se quereller avec les bergers d'Abraham. Voilà, il y avait besoin d'un changement. Et c'est quand on est dans les crises, parce qu'on a tous des crises, tous des épreuves, c'est là que l'on se révèle. C'est pas trop dans la bénédiction... Tout va bien. Tant mieux, heureusement qu'il y a des temps plus faciles. Il y a des temps plus difficiles. Mais c'est là que les gens se révèlent. Et c'est là. Et je voudrais que nous comprenions que tous ces regards dont nous parlent ces chapitres, j'ai parlé sur l'écoute au séminaire, mais là je voudrais parler un peu sur le regard, comment je vois une crise. Qu'est-ce qui se passe? Je traverse une crise parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu une querelle. Il y a eu des querelles entre les bergers. Alors il a fallu prendre une décision. Et Dieu va permettre parfois qu'il faille choisir, comme Michael nous le rappelait tout à l'heure pour la Sainte-Seine. Abraham, il va donner à Lot la possibilité de choisir. Alors que ça aurait dû être l'inverse. Mais Dieu nous éprouve. Et Lot, il va regarder la vallée. Oula, la vallée, c'est comme la vallée de l'Égypte, c'est vert. La vallée de Sodome. Il va dresser sa tente, mais enfin, je pense qu'il va les vendre vu ce qu'il va faire. Lot, il va choisir pour lui. Je ne sais pas les choix que vous êtes en train de faire. Il choisit pour lui. Il pense à lui. Il sait très bien que Abraham, il va se retrouver dans le désert. Mais lui, il choisit la vallée arrosée comme un jardin de l'Éternel. Les choix égoïstes, faisons attention à nos choix. Ne calculons pas le court terme. Des fois, on se dit, ah ben, je vais prendre ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être béni parce que vous calculez à court terme. Il faut penser au très long terme. Au très, très long terme. Vous avez compris? Très, très bien. Merci, Madame Chapeau. Les choix égoïstes ne nous aideront pas. Et il faut que nous comprenions ces choses. Il avait quitté l'Égypte, c'est vrai qu'ils avaient quitté l'Égypte avec Abraham. Vous savez, mais on peut quitter le monde et avoir toujours le monde dans sa tête ou dans son cœur. Les Hébreux étaient sortis d'Égypte, mais je peux vous dire que l'Égypte n'était pas sortie d'eux. La mentalité du monde. Il y a des gens, ils se convertissent, mais ils ont toujours la mentalité du monde. Ils aiment ce monde. Et voyez, dès qu'il y a un choix à faire, ils vont faire un choix à court terme. Croyez-moi qu'il aurait mieux fait de faire un autre choix. Les conséquences sont terribles. Vous lirez les chapitres. Il est demeuré à Sodome. Bien sûr qu'il avait pris du galon, le brave. Vous le voyez à la porte, c'est-à-dire qu'il était, comment dirais-je aujourd'hui, il était membre du conseil municipal de la ville. Vous vous rendez compte? Comment Dieu l'a béni. Il est membre du conseil municipal, lui, l'étranger. Je ne sais pas si c'est une bénédiction. Il est là, assis avec les notables de la ville, mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand les anges sont arrivés pour le prévenir, ils ont vraiment hésité à rentrer. Vous savez, je crois qu'il y a des maisons, je ne sais pas ce que je vais dire, si c'est bien juste, il y a des maisons, je ne sais pas si Dieu s'y plaît. Vous avez vu dans le chapitre avant comment les anges sont entrés dans la tente d'Abraham? Lisez le chapitre avant. Là, on a voulu leur laver les pieds. Là, l'autre leur dit, lavez-vous les pieds. Vous voyez, déjà une petite différence. La façon dont on accueille ces hôtes. Je crois que nos maisons doivent être sanctifiées. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien des choses. Moi, je voudrais que les anges puissent rentrer dans ma maison et se réjouir. Vous n'aimeriez pas, vous, que les anges... Vous rendez compte, s'il y avait deux anges qui venaient, ils vous disaient, non, on ne peut pas rentrer dans ta maison. On préfère rester dehors. Ça vous ferait pas drôle? Moi, je vous assure que ça me vexerait. C'est écrit, il faut y réfléchir. Vous savez, moi, je suis rentré dans des maisons de chrétiens et j'ai vu des enfants regarder des choses à la télé, des enfants que moi, je n'aurais pas pu regarder. Et je comprends un peu mieux pourquoi les anges n'ont pas voulu rentrer dans la maison de Lot et qu'il a fallu que l'autre insiste pour qu'il rentre. Et bien sûr, il valait mieux qu'il rentre, vu ce qui s'est passé. Quelle différence, oui. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le respect de la culture, lavez-vous les pieds, même s'ils auraient dû le faire, en fait, ils se procèdent à tati, mais vous avez vu comment il va se retourner quand cette affaire de perversité va se mettre en place? On se demande comment c'est possible. Il va proposer aux gens de la ville de coucher avec ses filles qui sont vierges. Mais moi, je préfère mourir et protéger mes filles. Oui ou non? Mais Dieu m'est témoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est écrit? Pour qu'on pour qu'on salisse cet homme. Non. C'est écrit pour nous montrer jusqu'à quel point un chrétien peut perdre la conscience. N'oublions pas que c'est un échantillon de jugement, du jugement. Que ce qui s'est passé du temps de Noé, que ce qui s'est passé du temps de Lot, ça arrivera exactement, vous l'avez lu trois fois comme moi, dans le petit texte que Jésus donne comme prophétie. Et ça vous montre combien on peut accepter l'immoralité, la perversité dans nos foyers. Écoutez, j'ai même entendu, je vais vous le dire, je l'ai lu sur un site chrétien. Ce que je dis, ça me gêne de le dire, mais c'est pour vous dire à quel point on en est. Qu'il y avait des chrétiens, je vais essayer d'être un peu discret, des couples chrétiens qui n'arrivaient plus à avoir de relations sans regarder des films porno. J'ai lu ça sur un truc chrétien. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je ne sais pas, mais c'est la vérité. Les valeurs. Et c'est vrai que, vous voyez, j'ai parlé du chewing-gum, je suis sûr qu'il y en a qui doivent dire, mais qu'est-ce qui pinaille pour un chewing-gum ? Je ne pense pas que c'est pinaillé. Je crois que les valeurs, la moralité, c'est sérieux. Oui ou non ? Quand même. La pureté dans une maison, la sainteté, c'est sérieux? Comment choisissons-nous nos programmes? Bon, moi, je ne suis pas trop pour la télé, mais quand même, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'on peut regarder. Oui ou non? Mais comment choisissons-nous nos programmes, TV, Internet, nos lectures? C'est ça que Dieu demande. Ce n'est pas que quelqu'un ait une conviction. Moi, j'ai mes convictions, mais je n'ai pas à les imposer à l'Église. Mais je pense que ce texte-là, de la même manière, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut quand même dire, mais comment je choisis mes programmes TV? Je peux regarder des choses qui sont bien, qui sont saines, qui sont pures. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas tolérer. Et qu'on le veuille ou non, ces choses-là, elles nous endurcissent, elles nous font perdre la conscience. C'est pour ça que quand vous dites dans les églises aujourd'hui, mais repentez-vous, ou alors quand vous parlez du jugement, les gens ils vous rient au nez en disant, mais mon pauvre, tu rêves. Voilà comment on en arrive. Lot, il avait fait un choix, peut-être il prenait ses tentes à Sodome, mais il s'y installait. Il s'est installé, il était dans une maison, il n'était pas dans une tente quand l'affaire s'est passée. C'est pour ça que je vous ai dit, il a dû vendre ses tentes. Vous croyez ou non au jugement? Répondez au Seigneur. Est-ce que vous croyez au jugement qui vient? Est-ce que vous croyez au jugement dernier? Moi, j'y crois. À tous les cas, il viendra. Vous croyez au retour de Jésus-Christ? Vous croyez à l'enlèvement de l'Église? Le témoignage de Lot. Quand il a dit à ses gendres, écoutez, le jugement va venir vite, qu'est-ce que ces anges ont cru? Ils ont cru qu'il blaguait. C'est pas une blague, l'enlèvement. Le jugement. Ces anges, ils ont dit, écoute, mon cher beau-père, c'est bien. Ils ont dû rire. Alors que quelques heures après, le jugement allait frapper Sodome. Ils ont cru qu'il plaisantait. Ça vous montre la piété qu'il devait y avoir dans la maison et les discussions par rapport aux choses de Dieu. Pour moi, il n'y en avait pas. Vous aimez parler de Dieu dans votre maison? Vous aimez parler du Seigneur? Il y a un frère qui me disait dernièrement, il est là, ce frère, il me disait, ça m'a choqué. Bon, ça date de 3 ou 4 ans, j'espère que ça a changé. Un frère qui me disait que quand il se retrouvait avec des chrétiennes de l'église de Saint-Agne, ils n'osaient même pas parler de Jésus. Moi, ça m'a... Si vous aviez la peine que ça m'a fait. Je crois que quand on est chrétien, quand on se retrouve avec des chrétiens, on a envie de parler de Jésus. Oui ou non? Vous n'aimez pas parler de Jésus? De l'Église, de l'espérance, de l'amour, de la... Oh non, quand on se retrouve entre chrétiens, on a honte de parler de Jésus. À méditer. Quand Lot a parlé de Dieu... Ces gens ont cru qu'il plaisantait. Vous avez vu l'autre, dans Pierre, on l'a lu, tourmenté, à cause des choses qu'il voyait, profondément attristé de ce qui se passait. Alors, c'est sûr que les choses qui se passaient du temps de Sodome, elles se passent aujourd'hui et on ne sait pas tout. Et heureusement. Mais je ne pense pas, en tous les cas, c'est sûr, qu'Abraham était profondément attristé de ce qui se passait. Abraham, il n'était pas tourmenté. Et c'est là que je voudrais conclure. Ne vous étonnez pas. Si vous faites des choix mauvais, que vous soyez attristé, profondément attristé, que vous soyez tourmenté par rapport aux choses que vous voyez, si vous les regardez, si vous les tolérez, si vous les choisissez, ne vous étonnez pas à ce que vous soyez profondément tourmenté, triste, abattu, sans paix. Lot, malgré le fait qu'il avait bien commencé, c'est pour ça qu'il est juste, parce qu'il a dû rester attaché à certaines valeurs qu'il y avait dans les choses de Dieu. On le voit quand il offre des pains sans levain. Bon, ça veut dire beaucoup de choses par rapport quand même à la compréhension des choses de Dieu. Mais moralement, il était tourmenté. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que vous soyez tourmentés. En parlant de tourment, ça me fait penser au tourment éternel. Bon, je vais vous dire enfin, ce que je pense. C'est rien d'être tourmenté sur la terre à côté des tourments éternels. Vous me suivez? Voilà, cette pensée, je ne peux pas la développer. Mais ne nous étonnons pas. Si du matin au soir, nous regardons des choses que Dieu désapprouve, si vous regardez des choses saines, vous regardez-les. Que vous soyez triste. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Dieu veut que vous soyez heureux. Est-ce qu'on peut être heureux dans ce temps de la fin? Est-ce qu'on peut être en paix dans ces temps de la fin? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui un chrétien peut être en paix? Oui, c'est écrit. Nous tournons nos regards vers le Seigneur. Soyons comme Abraham. On n'aura pas le temps de parler du regard d'Abraham. Mais il est là. Il est dans les chaînes de Mamré. Il est au-dessus. Il se tient dans la présence de Dieu. C'est certainement grâce à ses prières que Dieu a sauvé le neveu. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du grand combat. C'est pour ça que je vous encourage à aimer la prière individuelle, mais la prière d'église. Oui, il y a des grands combats. Il y a des grands combats. Cet après-midi, vous entendrez un témoignage, vous comprendrez. Il y a des grands combats. Et Abraham, vous verrez, on utilisera ce texte la semaine prochaine pour le jeûne et prière, mais vous avez vu comment avec ferveur, il va oser s'approcher de Dieu, mais s'il y a 50 justes dans la ville, le Seigneur, tu ne vas pas faire périr la ville s'il y a 50 justes. Et Dieu lui dit, d'accord, s'il y a 50 justes, je ne ferai pas périr la ville. Pardonne-moi, mais moi qui ne suis que poussière et cendre, mais s'il manquait 10 justes, ou 5, Seigneur, tu ne vas pas faire périr la ville pour 45. Et on voit cet homme avec respect, attention, ça ne nous autorise pas à prier n'importe comment. Cet homme, il connaissait Dieu, il a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. À cause de sa communion, lui, il n'était pas tourmenté, il n'était pas anxieux, il n'était pas triste, profondément attristé. Lui, partout où il passait, il bâtissait des hôtels et il donnait un nom nouveau souvent. Vous avez vu, qui c'est qui a donné comme nom El Olam, El Elyon, Jéhovah Jireh? El Shaddai, c'est Abraham qui avait une communion avec Dieu. Et les regards d'Abraham, ils sont sur Dieu. Je vous pose la question, quel est votre regard? Est-ce que vous pouvez dire, oui, Abraham, comme Abraham, moi je sais, lorsque je lis ce saint livre, je sais que Jésus, il s'appelle El Shaddai. Ton nom, on a chanté ton nom, c'est un beau cantique. Ton nom, c'est quoi pour vous, ton nom? Est-ce que ça, vous pouvez dire oui? Il est El Elyon, le Dieu éternel. Vous pouvez le dire ce matin? Dieu est tout-puissant. Et je choisirai. Je ne vais pas regarder n'importe comment, avoir ce regard flou de Lot. Je veux ce regard d'Abraham. Je veux me tenir dans sa présence. Je veux comprendre ces choses. Vous l'aimez le Seigneur? Eh bien, prouvez-le-lui. Je ne sais pas si l'expression elle est juste, mais prouvez-le-lui, montrez-lui que vous l'aimez. Aimez la communion, aimez vous retrouver seul dans sa présence. L'amitié de l'Éternel, elle est pour qui? Psaume 25, verset 12. L'amitié de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. Et Dieu s'est révélé à Abraham, et laissez-moi vous dire que Dieu se révélera à vous. Mais la dernière pensée que je voulais aborder, c'est une pensée importante quand même. Parce que franchement, elle s'est imposée à mon esprit lorsque je me suis préparé. Abraham, lui, il attendait la cité céleste. Mais ce que je voulais finir avec vous, c'est quand on voit que les anges ont été obligés d'attraper Lot par la main. Non mais, franchement, pour le sortir, il ne voulait pas sortir. Et je pensais réellement, vous comprenez bien que ce n'est pas pour l'autre que je me fais du souci. Je me fais du souci pour les chrétiens qu'il va falloir arracher. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que la prière, c'est sérieux. Qu'il va falloir arracher de Sodome. Vous vous rendez compte, être obligé de le prendre par la main pour l'arracher. Ça fait pas pitié quand même. Combien de chrétiens sont là, attachés aux choses de la terre? Bien sûr que lui, il était là, il regardait sa maison, je ne sais pas ce qu'il regardait. Il a fallu que les anges l'arrachent. Et l'autre, il représente... Parce que je voulais justement demander à Lucas qu'il prenne un chant sur les couronnes. Et il l'a fait. C'est bien, je crois que tu as été inspiré. Vous avez vu, on a chanté la couronne qu'on jettera aux pieds du Seigneur. Alors là, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est très sérieux. Il y a des chrétiens qui n'auront pas de couronne. Ça vous choque peut-être. On chante souvent, jeter à ses pieds ma couronne, tout ça. Il y a des chrétiens, ils seront sauvés comme au travers du feu. Paul en parle. Et il dit de ceux qui seront sauvés, ils n'auront pas de récompense, il n'y aura pas de couronne. Alors vous allez me dire, mais moi je m'en fiche, moi, si je n'ai pas de couronne, ça ne fait rien, il s'agit que je sois revêtu de fin lin, moi il s'agit que je sois sauvé. Vous ne croyez pas que notre Seigneur mérite un peu mieux quand même? Quelle sorte de respect? Bien sûr que je comprends la mentalité, moi si je suis sauvé c'est bien, moi si il y a 300 000 Toulousains sans couronne, moi ça me va. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voulez pas avoir la joie? Peut-être c'est un peu virtuel, mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est écrit. Vous n'avez pas envie de prendre la couronne qui représentera ce que vous aurez fait pour Dieu, de la jeter à ses pieds. Il y a des chrétiens qui vont se retrouver tout bêtes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Là, c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Ils perdront leur récompense. Parce que leur regard aura toujours été flou, ambigu, mélangé. Abraham, lui, il a les yeux sur Dieu. Et même s'il regarde Sodome, c'est pour les pécheurs. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que quand même on réfléchisse que ce jour, il va venir. Vous le croyez qu'il va venir ce jour? Il va venir. Moi, je crois qu'il vient bientôt. Très bientôt. Et si Dieu me met à cœur ce genre de pensée, je crois que c'est parce que ça s'approche. Vraiment, ça s'approche. Et la prière, mes frères et sœurs, ça ne doit pas être une réunion... De plus, le jeûne et prière la semaine prochaine, moi j'aimerais qu'on prie pour nos enfants. Vous n'avez pas envie que tous nos enfants passent par le baptistère, hein? Qu'ils soient arrachés, même s'ils n'ont pas de récompense, ça peut être tant pis. Mais qu'au moins qu'ils soient arrachés, que des anges, Dieu d'une façon ou d'une autre, les arrachent des ténèbres. Vous avez envie, mes frères et sœurs? On va terminer en priant le Seigneur, vraiment. Vraiment. Je voudrais que l'on soit sérieux. Ces choses-là, elles ont été écrites. Si Jésus dit, mais souvenez-vous de la femme de Lot. Mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Heureux êtes-vous si vos yeux sont fixés sur Jésus. Ah, vous êtes heureux. Vous êtes heureux comme Abraham. Même s'il a fait de perles six. Vous voyez, il s'est trompé deux fois, Abraham. Quand il est retourné en Égypte, avec l'histoire d'Agar, tout ça, vous savez, il s'est trompé de foi, mais il n'empêche qu'il savait se ressaisir. Et regardez en haut. Notre Père, combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir laissé ta parole. Tu l'as dit que le ciel et la terre passeraient, mais que ta parole ne passera pas. Nous voulons ce regard, Seigneur, ce regard vers le haut, vers la cité céleste. Nous voulons fixer nos regards sur ce jour où nous serons avec toi, revêtus de fin lin aux noces de l'agneau, sauvés du jugement et de la colère. Merci d'avoir permis que ces textes soient là, consigné dans le Saint-Livre. Combien nous voulons aimer ces textes. Combien nous voulons, Seigneur, que dans notre maison, ton esprit se plaise. Oui, Seigneur Jésus, qu'il en soit ainsi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. On pourrait chanter ce petit chœur. Je contemplais mon Dieu sur ce